Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 15e épisode de Ciné Brunch. 18e épisode de Ciné Brunch, oh pareil. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch. M'arrêter de compter, je suis meilleur quand je fais pas de maths. Fait que oui, vous entendez bien, c'est bien moi, Louis Laramé, qui est au micro aujourd'hui. C'est une émission laboratoire. Fait que avec moi comme collaborateur et peut-être ex-animateur, Jim Boulay.
Bonjour.
Et Mélina.
Bonjour.
Ça va bien, messieurs, dames?
Oui.
Ça va très bien.
Yes, on a une émission chargée aujourd'hui. On va parler de la forme de l'eau, mm-hmm. de scènes fortuites ainsi que de chenachna.
Et moi, j'étais voir Lady Bird.
Lady Bird, c'est vrai qu'il était également fort bien coté. Mais avant de commencer, les nouvelles de la semaine. Mélina, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine?
Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? En fait, j'ai envie de vous parler très brièvement de la nouvelle émission qui est sortie sur les ondes de V. Donc, on a eu 3 épisodes jusqu'à date. C'est l'émission de danse, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour la danse et ceux qui ne me connaissent pas maintenant le savent aussi.
C'est comme Louis et Fast and the Furious.
Exactement.
Tout le monde sait que j'aime Fast and Furious maintenant.
Ben, oui. C'est ça. Fait que cette émission-là s'appelle Danser pour gagner. C'est sur les ondes de V, comme je disais, et c'est une compétition de danse urbaine. Donc, c'est vraiment une très bonne émission. On dénote quelques petits problèmes techniques dans l'équipe de V qui sont pas, je pense, encore très bien habitués ou très bien rodés à faire des spectacles télé live. Mais au niveau de la danse, au niveau des équipes qui sont là, c'est vraiment excellent. C'est vraiment quelque chose à voir. Je vous le recommande, même si vous n'aimez pas particulièrement la danse. On a vraiment du talent au Québec. Donc,
moi, je trouve que c'est encore une fois de la discrimination envers les troupes de danse rurales d'avoir autant de danse urbaine.
C'est l'exode, Louis.
C'est l'exode des campagnes. Jim, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine?
Écoute, pas grand-chose, mais chose certaine, j'ai vu un documentaire sur Netflix et ça va sûrement t'intéresser parce que tu t'intéresses de toute évidence à l'intelligence artificielle. Je pense que t'es une personne comme ça, Louis.
Oui, définitivement. Je suis pas assez brillant, je vais m'apprendre l'artificielle.
Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ma passion pour le jeu de Go, le jeu de table ancien qui remonte à des milliers d'années, qui a été inventé en Chine et qui est un jeu de stratégie un peu comme les échecs, mais qui se joue avec des pièces blanches et des pièces noires. Je vous épargne l'explication, mais c'est un jeu aux possibilités extrêmement complexes et jusqu'à très récemment, c'était impossible pour un ordinateur de vaincre les meilleurs joueurs de Go. Mais jusqu'à récemment...
Mais là, on parle quand même de 2017 que ça s'est fait avec AlphaGo
oui,
qui a réussi
exactement,
à planter...
mais le documentaire est sorti sur Netflix ce mois, ben en janvier, fin janvier, je pense. Alors, et oui, ça raconte exactement ça. Donc, de quelle façon l'équipe d'AlphaGo ont réussi à battre les champions du monde et aussi... toute l'espèce de dynamique humaniste qui se cache derrière ça, de ces champions-là qui représentent l'humanité devant l'ordinateur de DeepMind. Oui, c'est DeepMind.
C'est DeepMind.
Oui, c'est DeepMind, la filiale de Google qui ont participé à créer cette application-là en compagnie d'évidemment plusieurs joueurs de Go. Et c'est vraiment... ça vaut la peine si ça vous intéresse l'intelligence artificielle et son application dans le monde réel. Et si ça vous intéresse parce que vous aimez le jeu de Go ou les jeux de ce type-là, vous aimerez sans doute ce documentaire sur Netflix.
Sinon, AlphaGo a été battu par la nouvelle création de Google qui est maintenant une intelligence artificielle qui, plutôt que d'apprendre le Go à partir de manuels de Go, a tout simplement joué contre lui-même des millions de parties.
C'est pas fou.
Pour apprendre apparemment que pour... j'ai des amis joueurs de Go professionnels ou à tout le moins amateurs élevés qui me disent que c'est presque ésotérique que de voir une partie jouée par une intelligence artificielle tellement les moves font aucun sens à l'esprit humain.
Ah, c'est passionnant quand même.
Moi, pour ma part, j'ai une petite semaine. Tout ce que j'ai, c'est Taika Waititi, le directeur de What We Do in the Shadows et aussi de Thor Ragnarok, qui oui. vient de sortir l'introduction qui va être mise avant le début de Thor Ragnarok sur DVD Blu-ray. Et il est vraiment drôle. Comme je pense okay. que ce directeur-là est juste extraordinaire comme directeur, mais comme individu et comme comédien, je pense qu'il a manqué sa carrière.
Ah, ah, ah.
Fait que je recommande à tous d'aller le voir. Il dit entre autres à quel point il est devenu directeur parce que ses parents auraient voulu être les parents de J.J. Abrams, puis que comme il peut pas l'être, il a travaillé fort à être le plus proche qu'il pouvait.
On attend son one-man show à Montréal.
Ou son prochain direction de Star Wars, c'est pas clair.
Oui.
Fait que ce serait ça pour les nouvelles de la semaine. On passe donc aux premières critiques. Voici Cinébrunch. Donc c'est ça, j'ai été voir Scène fortuite du directeur, ben, en fait du tout nouveau directeur Guillaume Lambert, qu'on connaît principalement comme comédien dans Like Moi, où il joue le petit dude avec les cheveux blonds. non mais là...
Comment le décrire?
Ben je sais pas, il y a pas vraiment de rôle en tant que tel dans Like Moi, où à tout le moins il y a des personnages récurrents.
Plein de personnages, ouais, c'est ça.
C'est vraiment compliqué à écrire. Bref, si les gens qui s'attendaient à avoir un... quelque chose dans la même veine que Like Moi, en s'attendant à ce que le comédien était justement dans l'humour du même type, vont être pour une très amère déception. Ce film-là est au contraire une espèce de montage, collage dans les traditions du cinéma exploratoire français louche, où est-ce que c'est toute partie d'un projet où est-ce qu'il a réussi à convaincre Denis Levent, l'acteur français, de faire une scène pour un court-métrage avec lui lors de son dernier passage à Montréal. Le court-métrage n'est jamais arrivé. Fait qu'il est comme parti de tout ça pour tisser le long métrage semi-autobiographique d'un jeune directeur de 33 ans qui essaie de monter un film avec cette scène-là avec Denis Levent.
C'est un métafilm, là.
C'est un métafilm qui est monté de retard et de... On va juste aller entendre la bande-annonce, parce qu'il y a vraiment des personnages extraordinaires dans ce film-là. Puis je veux que vous entendiez la voix, au moins, de Guillaume Lambert et de Valérie Cadieux, qui joue sa sœur.
Et on enchaîne avec une demande spéciale de Marie-Josée, qui veut entendre « Je t'attendais » de Daniel Etu.
Hey, le monde qui appelle la radio des demandes spéciales, là. Get a fucking life. Achète-la ta toune de merde sur iTunes.
Je t'attendais.
Je croyais que vous étiez un couple.
Non, on est juste frères et sœurs. Mais on n'a jamais couché ensemble. Hein?
Days like this is where we found our love.
J'imagine que toi non plus, tu fais pas ce que tu veux dans la vie.
Et 3, 2, 1, action!
Fait que c'est ça.
C'est ça,
et ça, c'est une bonne annonce d'une minute et j'ai pris les meilleures 30 secondes du plus comme imposant. Là, faut comprendre, c'est un projet sur plusieurs étages, cette histoire-là. Où est-ce que c'est Guillaume Lambert? Où est-ce qu'il y a un caméo de l'acteur français Denis Levent? Mais faut aussi comprendre que toute la narration entre les scènes et toute l'espèce de narration Dieu qui se fait dans le film se fait par une voix très connue au Québec. François Pérusse. Mais oui, c'est François Pérusse qui fait aussi un caméo dans le film en tant que tel, sous la forme de Denis, un gars qui travaille comme scripteur pour un show de vidéos drôles qui passe tard la nuit. Mais il faut comprendre que c'est François Pérusse avec sa vraie voix. Puis c'est François Pérusse qui fait une narration qui est à la fois très sombre et très acide par moments, avec des citations d'auteurs français vraiment déchirantes au travers tout ça, ce qui rajoute une espèce d'étage de déjà qu'on voit des acteurs québécois connus là. Fait que là, il y a Blake Cadieux, il y a Guillaume Lambert, il y a une couple d'autres très bons là-dedans, qui se ramassent dans des rôles pitoyables. Parce qu'il n'y a pas de héros là-dedans, il n'y a pas de... Tu sais, dans la bande-annonce, on entendait un moment où « Ah, je pensais que vous étiez un couple. » Ou est-ce que c'est une espèce de couple végétarien qui croit à l'amour absolu puis à la complétude en passant l'un par l'autre, puis... Bref, Guillaume Lambert essaie de faire l'histoire, la méta-histoire d'un directeur qui est pas capable de trouver la direction du drame dans son long métrage qu'il veut créer, puis qui se ramasse à découvrir le drame de la vie quotidienne. Que ce soit l'ami de sa sœur dont la demi-sœur se fait frapper et décède, que ce soit le vol d'une sacoche, que ce soit le mariage de sa mère qui est gâché parce qu'il passe un commentaire désobligeant pendant qu'il fume une cigarette dehors avec sa sœur, que ce soit... Là, je veux pas trop révéler, parce qu'il y a vraiment des belles affaires qui se passent, mais il y a au moins une scène où est-ce qu'on voit Guillaume Lambert en train de fumer une top dehors, habillé en lutin.
Fait que ça aussi, c'est un film un peu expérimental, c'est ce que
je
comprends.
Ah, c'est de tout. Mais c'est... Puis il y a une couple de critiques qui sont déjà sorties à ce niveau-là. C'est un film qui est inégal, nécessairement de par sa forme, ou est-ce qu'on le sent que c'est différents projets, là, tu sais, le créateur ne s'en cache pas, c'est des retards de films de lui quand il était jeune, parce que son père filmait tout. Il a participé à une émission où il était caméraman d'un jour pour un show de chasse et pêche. Il y a... des bouts de création pour une web-série qui a finalement se ramassé sur le B-side puis qui a jamais été utilisé. Okay. Fait qu'il y a un paquet de trucs comme ça qui sont ramassés. Et ça fait un film qui est, par moment, un peu hétéroclite et qui manque peut-être un peu d'homogénéité, où est-ce qu'on a des grandes scènes, où est-ce que ça va se passer dehors avec des grands plans sur Montréal, où est-ce qu'il y a du free jazz qui joue en arrière, qui rend ça vraiment entraînant. Puis après ça, t'as des scènes vraiment plus petites, plus coincées, où est-ce que c'est sur le silence, puis ça crée des ambiances intéressantes, ça crée quelque chose qui est vraiment le fun à regarder, mais ça veut aussi dire que faut s'attendre à une ride, là. C'est pas donné comme film.
Parce que là, il y a des malaises dans la bande annonce, on comprend, là.
Ah mon Dieu, il y en a partout.
On le sent, là.
Il y en a partout des malaises dans cette histoire-là. C'est un film qui se veut... Tout le long, en fait, le Étienne Danonadeau, qui est le personnage, dans le fond, interprété par Guillaume Lambert, se clame qu'il veut faire une comédie intelligente. L'objectif de son film, c'est de faire une comédie intelligente. Puis à chaque virage d'un bord puis de l'autre, on se ramasse avec juste des moments malaisants, bizarre, parce que il y a entre autres il se fait accueillir à sa nouvelle job où est-ce qu'il devient scripteur pour justement le dit show de vidéo drôle tard la nuit par sa collègue qui fait juste boire une canisse de jus Rosemont tout le long, mais tu sais, vraiment de manière trop pointée, puis tu sais, on voit juste ça, puis t'as toutes les scènes est en train de tirer une gorgée de sa canisse de jus Rosemont, fait qu'à chaque fois t'es comme mais pourquoi. Puis il n'y a personne qui est binaire. Il y a un long silence suite à un commentaire qui passe. Puis tu entends juste le slurp de elle qui boit dans sa canisse. De...
C'est excellent.
Okay, okay. Fait que c'est vraiment. Bon, c'est ça. Je parlais un peu avec des collègues. C'est pas un film à recommander pour quelqu'un qui est un grand fan de Guillaume Lambert qui s'attend à voir la même chose. Mm-hmm. Ce n'est pas Guillaume Lambert de Like Moi. C'est Guillaume Lambert qui tripe de son bord, qui développe sa voix finalement cinématographique. Là, on parle d'un type quand même qui a des intentions. Il dit que c'est pas son dernier long métrage. C'est un long métrage qu'il a réussi à réaliser pour moins de 200 000 $, ça paraît.
Quand même.
ça dure juste 1h10, là. C'est okay. Pas non plus. C'est long métrage sur le bord. Mais malgré tous ses défauts, malgré cette nature hétéroclite du projet, je suis sorti de là, j'avais ri. Je m'étais senti mal, j'avais compris la douleur humaine, j'avais vu des moments de vie vraiment intéressants d'un paquet de personnages. Fait que je ne peux m'empêcher que de le recommander à tous ceux qui auront l'esprit assez ouvert pour passer par-delà la structure différente de ce film-là.
Mais ça me semble bien intéressant, parce que ça donne envie d'aller le voir.
Ouais, un total de 8.5 sur 10.
Quand même.
Que j'ai presque envie de monter à un 9 juste pour la présence de François Pérusse.
C'est assez inhabituel.
Ben, c'est surtout parce que, puis il y a un moment vraiment méta où est-ce que il y a un clip de François Pérusse qui devient important dans l'histoire, mais c'est la narration de François Pérusse, puis on voit François Pérusse dans.
Mais c'est pas,
mais c'est pas le même François Pérusse. Enfin, en tout cas, ça devient vraiment intéressant, c'est et intéressant. C'est très drôle.
Eh bien.
Fait que je le recommande à tous et toutes. Ce serait ça pour les scènes fortuites.
Ouais, merci, ouais, Louis.
Merci.
Habituellement, ce serait le moment où on passe à la critique de Mélina. Mélina, tu as été voir La forme de l'eau cette semaine. Comment c'était?
Oui, c'est ça. J'ai vu donc le dernier film de notre cher Guillermo del Toro avec Sally Hawkins et Michael Shannon. Donc le film La forme de l'eau. Ça se déroule à Baltimore en 1962 dans un laboratoire secret du gouvernement et on est plus ou moins témoin de la rencontre entre une femme de ménage qui est muette, qui s'appelle Elisa, et une créature genre mi-amphibien, mi-humain. Donc, avant de rentrer plus dans le sujet, nous allons aller écouter la bande-annonce.
Elle est sourde?
Muette, monsieur. Elle vous entend.
Vous nettoyez ce labo, vous sortez.
Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça?
Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions.
Donc, comme on vient de l'entendre dans la bande-annonce du film La forme de l'eau, c'est cette créature-là que je vous parlais, dans le fond, qui est mi-amphibien, mi-humain. Elle a vraiment une forme d'intelligence qui la rend capable d'échanger, d'avoir des émotions et de communiquer. C'est une créature qui a été capturée dans une rivière en Amazonie. Et là-bas, la population locale la considérait comme un dieu, comme une forme divine. Donc, le gouvernement va la ramener dans leur laboratoire secret pour l'analyser, puis ils entrevoient la possibilité de pouvoir l'envoyer dans l'espace. Donc, on se rappelle, on est dans la guerre froide, la course à l'espace. Et il y a Elisa, la femme de ménage, qui commence à aller visiter la créature et à créer un lien avec elle, un lien, une relation qui va évoluer tout au long du film. Donc, ce film-là, La forme de l'eau, ça l'a déjà reçu plusieurs prix ainsi que plusieurs nominations que je peux pas passer sous silence parce qu'on parle quand même de 13 nominations aux Oscars. Donc, entre autres, meilleur film, meilleur réalisateur, actrice, second rôle féminin, masculin. Bref, je vais pas toutes les énumérer, mais vraiment une panoplie, peut-on dire. Et Guillermo del Toro, il a même gagné, en fait, aux Golden Globes pour la meilleure réalisation. Donc, c'est vraiment un film qui fait déjà beaucoup parler. C'est un film que, avant de voir, j'avais beaucoup d'attentes. C'est un très bon film. Petit point négatif pour ma part, je l'ai trouvé un peu long à partir et je trouvais qu'il y avait quelques longueurs. Puis, on dirait que la moitié de l'action se déroule dans les deux dernières minutes. Mais à part ça, je voudrais que c'est un film excellent. Les personnages, les acteurs sont excellents. Les rôles sont vraiment bien développés, ce qui nous donne des personnages ultra crédibles. La relation qui se développe entre Elisa et la créature est amenée d'une façon tellement belle et comme authentique. Puis c'est vraiment l'élément central du film. C'est vraiment bien développé, c'est vraiment bien approché. Une autre chose que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé de ce film-là, c'est la direction photo et la couleur du film qui était vraiment... Je trouvais qu'elle était vraiment parfaite, puis ça l'aidait vraiment à garder l'immersion dans cet univers-là. Parce qu'il faut savoir qu'à part la créature, il n'y a rien d'autre de fantastique dans ce film, dans ce film-là. Donc, on est vraiment dans notre univers. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une des difficultés du film de conjuguer notre univers avec un seul élément fantastique et de jamais nuire à la crédibilité du film. Puis c'est très bien réussi, en fait. On réussit vraiment à croire qu'une créature comme celle-là pourrait exister dans notre univers et peut-être même qu'elle existe. On reste vraiment... On réussit vraiment à embarquer dans cet univers-là. Puis c'est vraiment une des grandes forces de ce film-là. Pour ma part, je vous dirais quand même que, parce qu'on connaît Guillermo del Toro pour d'autres films, j'ai quand même préféré Le labyrinthe de Pan à La forme de l'eau, mais ça, c'est mon avis personnel à moi, mais ça reste que c'est un excellent film à voir, un film qui va faire parler pendant encore plusieurs années, sans doute, et on aura les résultats des Oscars dans un peu moins d'un mois, on verra s'il sort comme grand gagnant.
Mais tantôt, je riais parce que j'ai entendu... tu as dit que ce film-là faisait beaucoup parler... bizarrement, le personnage, le protagoniste est muet. Mais c'est justement ce que je voulais savoir. Est-ce que l'actrice est muette pour vrai?
Non.
OK, bon, je la connaissais pas tant que ça. Fait que je me disais, on sait jamais. OK.
Mais je dois souligner que comme Guillermo del Toro a plus que juste La Labyrinthe de Pan à son actif.
Oui, clairement.
Il y a vraiment une panoplie de films de qualité extraordinaire. Crimson Peak, Pacific Rim, Hellboy. C'est sûr que je dois admettre que je suis très déçu. En nouvelle de Guillermo del Toro, l'année dernière, on a appris que le projet de jeu vidéo qu'il co-développait avec Hideo Kojima qui devait s'appeler Silent Hills, a été cancellé. Et les premières images qu'on avait vues pour ce film-là démontraient tout le maestro de Guillermo del Toro dans la direction, parce que, bien que le jeu vidéo soit interactif, l'image était juste de toute beauté.
Mm. Hmm. Il y a vraiment ça, mais ce que je veux dire, c'est... Je voulais pas passer sous silence ses autres œuvres, mais sa préférée... mais ma préférée, en fait, reste encore Le Labyrinthe de Pan, qui est un classique selon moi, et que, malheureusement, La Forme de l'eau ne réussit pas à détrôner dans mon palmarès personnel de Guillermo del Toro.
Plus rough aussi, pas mal, Le Labyrinthe de Pan. Regardez, il me semble, en tout cas, moi, je trouve ça difficile.
Mais j'arrivais plus à rentrer dans... Je sais pas. C'est une question de feeling à ce moment-là, ouais. Parce que c'est deux films qui sont vraiment excellents. Donc, pour ce film-là, moi, j'y vais avec un 8 sur 10.
Faut aussi dire, Jim, je t'apprécie énormément comme personne, mais t'es une petite nature quand il s'agit de cinéma.
Non, mais j'adorais aussi Le Labyrinthe de Pan. C'est simplement que c'est pas le même type de film, parce que c'est vraiment un film beaucoup plus rough. Là. Je veux dire, c'est... Oui, il y a des métaphores, mais on s'entend, là, c'est pas drôle ce qu'a vit la petite fille dans Le Labyrinthe de Pan. Ben, ce qui est ses parents, puis tout, les environnements à vie aussi. Mais dans ce film-là que j'ai vu aussi, la forme de l'eau, on est en autre chose. On est plus dans un registre un peu français comme style. Je trouvais un peu à Amélie Poulain, un peu surréalisme, en même temps restant dans un univers réaliste.
C'est très poétique.
Très
en fait.
Poétique, ouais, ouais.
On est loin de Blade 2, finalement.
Extrêmement. Ah. Et, avec, oui. Et heureusement. Heureusement.
Ouais, mais Blade. Ouais, mais Blade 2. Ouais, Blade 2, non, ok, c'est bon. Mais merci beaucoup, Mélina.
C'est le moment des sorties cinéma. Je suis sorti.
Fait que pour les sorties cinéma cette semaine, on a plusieurs choses. On va commencer par les sorties Netflix, parce que c'est ça, c'est Netflix, puis j'ai quand même du plaisir à faire Netflix. Netflix a trois films qui s'en viennent cette semaine. D'ailleurs, ben, un qui est déjà sorti, parce qu'on parlait du Super Bowl en entrée.
Oui.
Ben, pendant les annonces du Super Bowl, les traditionnelles annonces du Super Bowl, il y a eu la bande-annonce de Cloverfield Paradox.
Oui.
Qui sortait 10 minutes après la fin du Super Bowl. Était disponible dans
le timing, hein, c'est ça. Oui.
C'est quand même très bon. Tristement, les critiques sont pourries pour le film.
Oups.
Mais Cloverfield Paradox s'inscrit dans l'espèce de trilogie bizarre des Cloverfield, qui commençait avec Cloverfield, qui était un footage film de monstres, un found footage de monstres bizarres sorti en 2015, qui était suivi par 10 Cloverfield Lane, qu'on a vu en 2017, qui était... Encore une fois, un truc un peu louche d'un homme dans un bunker avec des gens pris avec lui. Puis là, ce serait sci-fi, l'origine de Cloverfield.
Ah.
Ouais.
OK.
Fait que c'est une espèce de collaboration étrange entre Paramount et J.J. Abrams qui est finalement sorti sur Netflix. À voir ou pas.
Bon.
On a vendredi, hier en fait, qui va sortir When We First Met, qui est un film d'amour où un type peut revenir dans le temps pour changer une soirée où il s'est fait friendzone.
Oups.
À voir, peut-être.
Je pense que Mélina va regarder ça, son genre.
Ben,
ça dépend c'est avec qui, ça dépend... Ouais.
Adam Devine qui joue le rôle principal. Mais c'est aussi parce que c'est Netflix, puis je lisais sur la barrière d'entrée, tu sais, aller au cinéma, c'est 10$, 5 si tu y vas le mardi. Netflix, on paye déjà pour. Tu sais, j'ai déjà accès à ces choses-là. J'ai regardé Bright, même si c'était pas écoutable finalement. J'aurais peut-être pas payé le cinéma pour aller voir ça.
Parce que tu peux faire stop quand tu veux, puis ça coûte pas cher.
Ouais, c'est ça, je peux aller me chercher des biscuits pour passer le temps, là, c'est pas...
Ou autre chose.
Moi, je suis pas fort ces biscuits. C'est pour ça que je suis gros. On a...
Moi, ma liste Netflix est pleine de choses que je ne terminerai jamais. Je veux dire, le continue watching, là, continuer à regarder, là, de, justement, de choses
ça
comme
ça. Ça s'efface à un moment donné. Ça s'efface à un moment donné.
Ouais, pas assez vite. Pour moi aussi, j'ai une coupe d'affaires. Je suis comme, oh, je ne continuerai pas. Tu sais, Fontaine, je ne finirai pas ton film.
Bon. Oh!
On a aussi The Ritual, qui est quatre amis qui se réunissent pour l'anniversaire du décès d'un de leurs meilleurs chums pour une randonnée dans la forêt scandinave. Malheureusement, un mauvais tournant les amène au milieu d'une forêt légendaire, emplie de créatures de la mythologie norse. Fait que Thor, Odin, pis toute la patente. Pas la version...
pas la version super-héros. Non. Non, non, malheureusement. Mais est-ce que tu vas le regarder?
Encore une fois, les critiques... En fait, celui-là, c'en est un des drôles, parce que les critiques sont bonnes, mais les critiques des gens, du public, sont pourries.
Peut-être que tu vas aimer ça.
Ben, je vais regarder la bande-annonce. J'ai pas... Bon. Je dois admettre, cher auditeur, auditrice, je n'ai pas fait mon travail, j'ai pas regardé autant de bande-annonces que j'aurais dû.
Bon.
De cinéma en cinéma, on a, justement, parlant de super-héros, La Panthère Noire, de Black Panther, qui, après les événements...
Qui est la sœur de La Panthère Rose?
Non, on n'est pas dans le même...
La cousine, non?
On n'est pas dans le même registre. Quoique je verrais, j'aimerais ça, voir un retour de la Panthère Rose au cinéma. Je pense que j'ai entendu des rumeurs. Oui, mais j'ai entendu des rumeurs comme de quoi qu'il y avait un nouveau projet qui s'était en train de se faire à ce niveau-là.
À suivre.
À suivre. Bref, la Panthère Noire, c'est après les événements qui se sont déroulés dans Captain America. T'Challa revient chez lui prendre sa place au trône de Wakanda. Quelque chose, courage, il y a un conflit. La bande-annonce est vraiment cool, puis on voit Captain America avec un nouveau bouclier. Il y a... ouais, je le sais.
On aimerait mieux la Panthère Rose, mais
tu sais que tu fais
bon.
Partie d'une sous-culture, hein?
Que je fais partie d'une... Oui, oui, ben, d'une coupe, en fait, pour oui, être honnête, mais... OK, je vais le dire, parce que Black Panther réunit quand même des acteurs le fun. Donne-moi juste une seconde, je veux juste pas dire de niaiserie. Chadwick Boseman qui joue le rôle principal, le rôle éponyme de Black Panther, Forest Whitaker qui est là, on a Michael B. Jordan, mais on a aussi Martin Freeman qui est là. Puis moi, le fait que Martin Freeman est impliqué dans ces projets-là me rend heureux. Fait que c'est ça. On m'accusera d'être raciste de juste parler du dos de blanc. On a également la semaine prochaine qui sort Crow-Man, la version française de Early Man, qui est un film d'animation en stop-motion qui a l'air spécial. Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcourent encore la Terre, l'histoire d'un homme des cavernes courageux Dog et son meilleur ami Ognob qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi. Je sais pas, je suis vraiment pas convaincu. On a aussi La part du diable, film québécois, qui parle, qui est un regard différent sur la révolution tranquille des années 70.
C'est un documentaire.
C'est supposé. Romancé, je pense.
Ah ouais?
T'es
sûr?
Moi, j'ai vu que c'était un
documentaire.
Pas mal documentaire.
C'est fait, c'est parce que c'est Luc Bourdon qui a fait La mémoire des anges, qui ça était un documentaire romancé. Bref, c'est... Ah ouais, OK. D'extraits tirés de près de 200 films de la collection de l'Office national du film de Canada. Les dessous d'une destinée au cœur de laquelle le Québec s'est profondément transformé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une... Ah, c'est ça. Une déclamation poétique sur l'histoire de l'évolution tranquille.
Par l'image, probablement, parce que la bande-annonce est muette. Il n'y a pratiquement aucun... Il y a une petite phrase à la toute fin, mais c'est tout. Le reste, c'est juste des images.
C'est beaucoup d'archives, je pense.
Des archives,
ouais. C'est ça qu'il dit, c'est 200, plus de 200 films de l'Office national du film. Je vais être curieux de voir ça comme film, je crois. Bienvenue, nous sommes de retour avec Cinébrunch. On va vous parler de Hochelaga, Terre des âmes. Mais Jim doit d'abord nous faire sa critique de Lady Bird.
Oui, parce que j'ai été voir Lady Bird et mon Dieu, quel film intéressant. Film américain écrit et réalisé par Greta Gerwig.
Je t'arrête juste un instant, Jim. Je veux faire savoir à nos auditeurs et auditrices que ça a été débattu vraiment chaudement à savoir qui allait voir Lady Bird parce que j'étais vraiment intéressé à aller le voir. Mais finalement, je suis content d'être allé voir Sainte Fortuite.
Bon, ben moi, je suis content de ne pas avoir été voir Sainte Fortuite et d'avoir vu Lady Bird.
Excellent.
Alors, tout le monde est heureux. Donc, c'est ça, un film américain écrit et réalisé par Greta Gerwig, une jeune actrice de 34 ans qui a joué dans plusieurs films, mais qui signe ici presque son premier film. Je dis presque parce qu'elle a déjà co-réalisé en 2008 un film indépendant que personne connaît avec 2 000 $ au box-office le premier week-end contre 364 000 avec Lady Bird. Donc, ça nous donne une idée un peu de la différence. Et c'est l'actrice dans le film est Saoirse Ronan, j'ai beaucoup travaillé pour avoir la bonne prononciation parce que ça s'écrit S-A-O-I-R-S-E, Saoirse, qu'on a vu dans The Way Back, Anna et le Grand Budapest Hotel, entre autres. Voici la bande-annonce.
Je déteste la Californie. Je veux aller sur la côte Est. Je veux aller là où est la culture.
Comment
est-ce que tu
es une fille aussi snob?
Tout le New Hampshire.
Oh, tu devrais même pas y être admise.
Maman!
Tu devrais aller au City College avec ton éthique de travail. Va au City College, ensuite en prison. Et puis tu reviens au City College et peut-être que tu apprendras à te relever. Et ne t'attends pas à qui que ce soit.
Elle est chaleureuse, mais elle est aussi effrayante.
On peut pas être chaleureux et effrayant.
C'est exactement ta mère.
Donc, vous n'êtes intéressé par aucune université catholique?
Aucune. Je veux une école comme Yale, mais pas Yale, parce que ça m'étonnerait que je puisse y entrer.
Vous n'avez aucune chance d'y entrer, c'est sûr.
Ça met le ton. Ça met le ton. Oh mon Dieu, quelle femme étrange. Dans ce film Lady Bird, Saoirse Ronan interprète Christine, alias Lady Bird, un nom qu'elle se donnait elle-même, une jeune adolescente qui vit chez ses parents à Sacramento, en Californie. Elle s'intéresse aux arts et aux lettres. Elle chante dans un programme de comédie musicale et on la suit tout au long de sa dernière année au secondaire dans une école catholique. Mm-hmm. Elle est à l'âge où elle doit appliquer pour aller dans un collège, mais refuse d'aller dans un collège religieux, comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce, ni même un collège local. Elle veut aller sur la côte Est, le milieu artistique et culturel par excellence. Donc, avant d'aller plus loin, le film ouvre avec une citation de l'écrivaine Joan Didion, qui dit « Anybody who talks about California hedonism has never spent a Christmas in Sacramento. » En français, n'importe qui parle de l'hédonisme californien n'a jamais passé Noël à Sacramento. J'ai trouvé ça de toute beauté parce que ça dit tout. Mm-hmm. Et vous savez, Sacramento, je ne sais pas si vous connaissez un peu la ville, c'est la capitale de la Californie. Et c'est une ville à peu près 2 heures au nord-est de San Francisco, dans les terres. Et la ville est souvent dépeinte comme terne et plate dans le cinéma et la télévision. Je pense d'ailleurs à la série Netflix Mindhunters, où se passe une bonne partie de l'action à Sacramento. Et bref, c'est important de filer le côté taciturne de Sacramento pour bien comprendre l'histoire de ce film-là. Lady Bird, c'est une ado avec des problèmes d'ado, relation difficile avec sa mère principalement dans son cas, premières expériences de couple et découvertes de sa sexualité, sa famille n'est pas riche mais elle doit vivre avec cette réalité-là. En gros, c'est un film incroyablement simple sur la vie d'une jeune femme qui veut se lancer dans une carrière artistique et qui rejette la platitude et l'inertie de son environnement. On la voit évoluer, entourée des thèmes de la famille, de la religion, notamment avec son école catholique, de l'amitié franche qu'elle a avec une fille un peu grassouillette, de l'envie de faire partir de quelque chose d'important et de sa relation avec les garçons. Bref, c'est un film d'adolescente, mais pas n'importe quel film d'adolescente, parce que Lady Bird est au film d'ado ce que Ben-Hur est au film religieux, ce que Jurassic Park est au film de dinosaures. Vous voyez un peu le tableau? Donc, parce que ce film-là ne réinvente rien, ne chamboule que très peu votre esprit ou vos convictions, ça veut pas dire que ce film-là n'est pas parfait dans son genre, parce que justement, pour une fois, on y croit vraiment au film d'adolescente. Et le jeu des acteurs, tous les acteurs dans le film sont très bons. Lady Bird, on y croit, ça mérite vraiment un Oscar, comme ça n'a pas de sens. Sa mère est extrêmement bonne aussi. Franchement, c'est du réalisme pur, pas la version française par contre. On réussit à éviter tous les clichés et lieux communs pour parler comme toi, Louis. Écoute, sérieusement, là, même la bitch populaire de l'école, la pitoune...
Bref, on y croit.
Ils réussissent à créer ce personnage-là sans faire tomber dans le stigmate habituel de ce type de personnage-là. Donc... On est rapidement submergé dans ce film-là par la réalité de Lady Bird. Dans le concret de son existence et de ses problèmes d'ado, c'est un film à la fois typique par son genre et atypique par l'originalité de sa réalisation et par son côté crédible. Je recommande fortement ce film-là avec un 8 sur 10. Je n'irai pas plus loin parce que c'est, bref, pour moi, très bon, 8 sur 10. Greta Gerwig, la Léa Poole de la Californie, qui sait, chose certaine, elle jouera son rôle. Elle jouera un rôle dans le prochain film de Wes Anderson, Isle of Dogs, qui sortira au mois de mars.
Avec une femme à suivre la carrière.
Tout à fait, c'est surprenant que cette actrice ait pu pondre un film de ce calibre-là avec très peu d'expérience en réalisation. C'est très, 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 très bon.
Je pense que j'avais compris que c'était un projet qu'elle nourrissait depuis vraiment longtemps, dont elle avait comme eu les premiers balbutiements, là, presque une décennie maintenant, là, que vraiment elle mûrissait en son sein depuis assez longtemps pour dire que c'était probablement un jet fini quand elle a parti.
Et peut-être
là,
un peu autobiographique, parce qu'on sait qu'elle est née à Sacramento, donc...
Ouais, tout le monde est tiré de l'autofiction. Il a fallu aller écouter des entrevues pour en savoir plus.
Effectivement. Et voilà.
Oh, je pense qu'on est rendu au bout le fun de l'épisode. Je pense qu'on est rendu au moment où tout le monde attendait avec tant d'impatience. Chers auditeurs, auditrices, sachez que nos conversations de groupe entre collègues vont comme suit habituellement. Jim dit des choses, je réponds, Mélina s'assure que tout est bien entre nous deux. Mais quand est venu le temps de parler de Hochelaga, Terre des âmes, on était tous d'accord qu'il fallait voir ce truc-là.
Absolument, absolument.
On n'en a pas parlé, on n'a pas été le voir ensemble.
séparément.
Fait qu'on sait pas encore comment est-ce que les autres ont vécu l'expérience.
Mais on sait que tout le monde a envie d'en parler, par
oui,
exemple.
C'est ça. Enfin,
on sait que personne n'est indifférent. Ça, c'est certain.
Exactement. Jim, nous as-tu préparé une petite bande-annonce pour aller avec ça?
Absolument.
J'aimerais ça que tu nous la mettes, s'il te plaît.
Avant de laisser la parole à M. Assigny, j'aimerais souligner que la thèse qu'il soutient aujourd'hui, il y travaille depuis 10 ans.
Membre du jury, je tiens à préciser que le site étudié, le stade Percival Molson, s'est avéré particulièrement riche.
So I'm asking you to think about what happened a year ago, 10 years, 20, 50, 100 years ago in this stadium.
Il s'est passé quelque chose au stade McGill.
Les adoune, het sirwanen. Te wa tunnene. Te se yiskanen keka.
Juste avant d'aborder le thème central de ma thèse, je tiens à préciser que plusieurs des artefacts qu'on a déterrés n'avaient aucun lien avec le sujet de ma recherche. J'ai regroupé ces artefacts dans un chapitre intitulé « Découverte accidentelle ».
Répondez-vous, mon fils. On est dans les mains du malin. La colonie est armée.
Capitaine Jacques Cartier, sujet de François Ier, roi de France.
Madame Walker, my name is Léopold Lacroix.
Je sais très bien qui vous êtes.
Two men on the run!
Guys just like you, wearing the same red shirts.
Fait que voilà, ça c'était une bonne partie de la bande-annonce de Oshaga Terre des Armes. Oshaga Terre des Armes, ce que c'est un film dans plusieurs parties, mais c'est principalement la présentation du doctorat de Samian, l'acteur, l'artiste hip-hop d'origine autochtone, qui fait une présentation, dans le fond, de fouilles qui auraient été faites sur le site du stade Percival Molson, dans le quartier d'Hochelaga.
Je pense que c'est à McGill, en fait. C'est pas dans le quartier d'Hochelaga, le stade Molson?
C'est pas dans le quartier d'Hochelaga, mais
c'est dans le cours des neiges, okay. McGill, en tout cas, ouais.
Okay, c'est les ghettos McGill, en fait, qu'on appelle communément.
Les ghettos McGill?
Le ghetto McGill. Le ghetto McGill.
Le ghetto de pauvres, évidemment.
Pas de patate. mais c'est très McGillois comme oui. Ghetto. Mais bref, donc c'est ça. C'est une présentation académique d'un site de fouilles du stade Percival Molson. Il y a plusieurs étages à ces fouilles-là. Donc il y a plusieurs époques qui sont explorées par les différentes fouilles. Il y a des artefacts français, britanniques, amérindiens. C'est entre clairsemé aussi d'un sous-histoire où est-ce qu'il est question d'un match entre les Redmen de McGill et les Gators de Bishop. Puis d'une espèce de rivalité, il y a le décès ou à tout le moins il y a un accident grave qui arrive sur le site du stade. Fait que c'est à peu près ça le film, là, c'est ça la base du film, puis là c'est là l'époque où on commence à critiquer. Mais non, qu'est-ce que t'as pensé du film en premier?
Moi personnellement, d'entrée de jeu, j'ai vraiment adoré le film. J'ai vraiment des gros points positifs sur ce film-là. Je vous dirais que je mets deux petits bémols au niveau du dialogue en partant et du jeu des acteurs. Dialogue qui était très et trop soutenu pour sa crédibilité, qui nuit à ça, et jeu de... Ben, on s'entend que Samian, c'est un chanteur. Moi, je suis le genre de personne qui croit fortement que quand on est bon dans quelque chose, on doit persévérer là-dedans. Je comprends peut-être les raisons qui ont poussé la production à le choisir, mais je pense que définitivement, il ne gagnera pas un Oscar pour ce rôle-là, cette interprétation-là.
Avoir eu un acteur amérindien de stature plus intéressante, on aurait dû le choisir.
Mais moi, je suis totalement d'accord parce que, franchement, tous les autres Amérindiens étaient corrects. Là.
Il y a vraiment juste lui qui est poche.
Puis malheureusement, il y a comme une position, disons, importante. Okay.
Avant de rentrer dans le débat, toi, Jim, qu'est-ce que tu as pensé du film? Écoute, en général?
C'est ça le problème. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à me faire une idée sur ce film-là. Je suis mitigé entre à la fois... c'est de l'amour-haine que j'ai pour ce film-là. Des moments extraordinaires, entrecoupés de ponts et de liaisons complètement qui n'ont aucun sens et qui, pour moi, sont totalement ratés. Mais mais encore là, ces moments-là, j'en frissonne encore. Donc, des moments historiques exceptionnels, bien faits, bien ficelés, pas tous, mais certains moments ambitieux, très ambitieux comme film. Je suis satisfait. C'est un film que je recommanderais, mais il y a des affaires que...
OK. Je suis content parce que moi, c'est comme un reverse problème d'infiltration. Parce que j'ai détesté ce film-là avec passion qui brûle encore en mon sein. Non, j'ai une hargne féroce envers les gens qui ont donné le feu vert à ce projet-là. Parce que je constate que c'est inégal, que c'est mal ficelé, que la trame narrative fait aucun calvaire de sens, qu'on essaie de nous amener sur un voyage politico-nationaliste qui ne fait finalement aucun sens, à moins de fitter dans une définition très particulière de ce que c'est que d'être québécois, puis que c'est tellement mal expliqué que c'en est même difficile de le faire sans lire le métatexte derrière le film, fait que j'ai vraiment haï ça pour mourir.
Hey, ça va être toute une discussion qu'on va avoir.
Mais je pense qu'on va avoir du plaisir.
C'est intéressant. Mais je pense que oui.
Mais je vais au moins donner le point que au niveau visuel, il y a vraiment des scènes qui étaient extraordinaires. Là. Je veux dire, je pense, entre autres, dans le fond, la structure du film, c'est ça, c'est plusieurs séries d'artefacts. À chaque artefact qui est présenté, on vit un moment d'histoire québécois.
Un flashback. Là,
ouais, c'est ça. On a entre autres la vie d'un coureur des bois qui s'est amouraché d'une Amérindienne qui tombe affreusement malade de la peste, je crois. Il y a, ou c'est de la variole, c'est pas clair. Il y a un moment où on suit des patriotes français qui colludent avec
la femme d'un Anglais.
Ouais, c'est ça, qui participe au complot pour renverser la monarchie britannique. On a
ben, il y a l'arrivée de Jean Cartier.
L'arrivée de Jean Cartier, c'est ça. Les moments, justement, des Patriotes, vraiment extraordinairement beaux. Dans la forêt, il y a une course extraordinaire. C'est très beau. C'est vrai que Sam Yen est probablement le moins bon acteur
c'est pas fameux.
Non, du mais projet, c'est mais je pense qu'il y a d'autres performances aussi qui auraient pu être amenées. Là, justement, le coureur des bois est pas crédible du tout. Vous
trouvez pas que tous les acteurs de soutien dans ce film-là sont pas très bons?
Mais je pense pas qu'il y ait de bons
acteurs.
À part
les Amérindiens, là, qui sont quand même bien.
Non,
là.
Mais je pense pas qu'il y ait de bons acteurs dans ce film-là.
Ben, c'est ça. C'est ça le problème.
Non, il y a c'est pas vrai. Je
la madame est très bonne. La madame anglaise est très bonne.
Ouais. Le type qui fait le chaman est vraiment très bon et très crédible.
L'aveugle, le chef aussi. Pas mauvais.
Oui, 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 qui rencontre Jacques Cartier pour la première fois. Mais non, moi, je suis content que tu aies mis la mention presque au complet, parce qu'on a le moment, dans une des premières scènes du film, où j'ai vraiment, je me suis fessé la tête très fort, où est-ce que il y a le coach de Iron Man qui est en train de faire un message, qui est comme, on se rappelle c'est quoi notre terre, c'est ici qu'on s'est battu, puis c'est supposé être ça qui nous met dans le mode de dire que c'est un film qui va parler de ce que c'est que d'être québécois, mais c'est vraiment... Mais il faut comprendre que mais c'est du point de vue britannique, parce que c'est un francophone qui parle anglais devant des gens qui s'appellent des Redmen. Il fait lui-même une allusion aux Britanniques qui étaient des lobsters à l'époque, parce que habillés en rouge. Je pense que avoir eu des métaphores ou avoir eu une volonté plus forte de nous garocher ça à truelle d'en face, on l'aurait ressenti physiquement dans le cinéma quand cette imagerie-là nous est arrivée d'en face.
Moi, j'ai trouvé que c'était raté, que le speech... Moi, j'ai aimé le speech du coach, là. Okay. J'ai trouvé ça très fort. Par contre, c'est là qu'il aurait dû nous montrer la bizarre de métaphore de joueur de football dans la forêt, et non pas plus tard, à un moment totalement random dans le film, où ça n'avait plus de lien avec le stage.
Ouais.
Tu sais, à la limite, on aurait pu aller chercher cette espèce de côté-là un peu abstrait, explicatif, mais là, ça a été mal utilisé, à mon avis. Mais je pense que Mélina a une vision totalement différente de nous, de ce film.
Ben oui, mais premièrement, moi, ce que j'ai vraiment dégagé de ce film-là, c'est que on innove dans le sens que le personnage principal de ce lieu-là n'est pas une personne, c'est vraiment un lieu. C'est vraiment ça le personnage principal, selon moi. Et ce qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment de personnage principal. On tourne autour de ce lieu-là, au lieu que d'habitude on se sert d'un personnage, on le suit à travers le temps, on suit un lieu à travers le temps. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Le côté des artefacts amène vraiment un pont pour nous projeter à différentes époques. Et il faut savoir que ça se base sur un débat en archéologie qui est vrai, que c'est une des hypothèses que le village de Schlaga, de Jacques Cartier, qui a trouvé en arrivant ici, pourrait être situé au stade Percival Moulton. Donc, on part d'une prémisse qui est déjà discutée dans ce monde-là. Donc, on passe sur des bases solides. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi dans ce film-là, c'est que c'est vraiment, quand on parle que le cinéma c'est un art, c'est vraiment, selon moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment un film qui est très artistique. On expérimente des choses, on essaie des trucs. C'est clair que c'est pas un film qui va faire consensus. C'est un film qui va diviser. C'est un film qui peut choquer aussi. Mais selon moi...
T'as un peu choqué?
Ah oui.
Comme quelle scène, quel moment... Quand, j'ai jamais été choqué dans ce film-là, je comprends mal comment...
Tu veux dire au niveau des valeurs québécoises, ces choses-là?
Oui, au niveau de, ben, au niveau de l'histoire aussi, au niveau de comment les choses se sont passées. Est-ce qu'on on reflète... quand on parle d'histoire, on a souvent... on apprend l'histoire de... ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un peu une espèce de lunette quand on voit l'histoire, qui est une interprétation de ce qu'on apprend. Donc, l'histoire qui nous démontrait là... n'est pas... je veux dire, on part d'un journal de bord de Jacques Cartier. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai?
Ouais.
Qui peut vraiment nous le dire ici, en ce moment? Donc, il y a un peu de fabulation dans tout ça.
Mais ça reste... Puis je comprends ce que tu penses que tu essaies de dire, mais moi, au contraire, je trouvais justement que cette volonté historique-là était pas intéressante parce que... Concrètement, je veux dire, j'ai eu un cours d'histoire au secondaire là, qui m'a fait toutes les historiques de ce truc-là, de la vie difficile des coureurs des bois, de les liens parfois illicites ou de relations entre les Amérindiens puis les Blancs, le rôle de la religion dans tout ça qui prenait une part de plus en plus importante, le rôle des Britanniques, les Patriotes. Je pense qu'il y a rien là-dedans au niveau historique justement qui m'a surpris. Je pense, si au moins on avait eu... une volonté plus grande. Si au moins il y avait une volonté soit de justement choquer en sortant des faits historiques différents ou de présenter une perspective plus intéressante. Je parlais de ça avec quelqu'un qui a vu le film et qui fait des études en ce moment en études autochtones, qui me disait que, ben oui, mais concrètement, on voit pas plus les moments où est-ce qu'on a exploité les Autochtones, qu'on les a mis à la porte, qu'on les a utilisés dans des guerres, qu'on leur a donné volontairement des maladies graves. On voit pas. Tout ce qu'on comprend de ce film-là, c'est au Québec, il y a eu des Britanniques, des Français, des Autochtones, puis c'était à Montréal.
Mais je pense pas que le but non plus n'était était de démontrer ça, parce que c'est un film qui a été fait par un Blanc, par un Québécois.
Mais donc... je pense pas qu'il y avait de but à ce film-là. En fait, c'est ça mon gros problème. J'ai pas trouvé... Je suis sorti de là, puis je me demandais... J'ai compris que la trame narrative avait été sublimée par la trame historique, mais je trouvais qu'il y avait rien d'intéressant à la trame historique pour justifier justement... cet arrêt-là d'une narrative traditionnelle.
Moi, c'est drôle parce que les moments que j'ai préférés dans ce film-là sont les moments historiques.
Oh oui.
En fait, c'est les seuls que j'ai appréciés.
C'est les seuls intéressants, tout à fait.
Franchement, c'est parce que j'ai trouvé ça très... Moi, la scène, la zone, parce que ça a duré quand même assez longtemps, ce bloc-là, où on parle justement de la maladie à cette époque-là. Mon Dieu, c'est prenant là, comme moment. Là. On le ressent. On a réussi à mettre en vidéo... une zone historique qui, à ma connaissance, n'a jamais été, ou en tout cas, n'a jamais bien été mis en film. Et c'est ce que je trouve que ce film-là réussit parfaitement, c'est que les moments où on est dans le passé, on y croit, c'est bien fait, puis on n'entre pas trop dans des clichés, à part peut-être un peu la zone de Jacques Cartier, là, mais c'est pas trop mal, ça. Par contre, c'est que toutes ces choses-là sont liées d'une manière que j'arrive pas encore à comprendre. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Déjà, il n'y a pas de linéarité, les ponts ne se tiennent pas, ne sont pas chronologiques. Il y a comme une espèce de... c'est mal amené, puis au bout du compte, on s'entend-tu que la conférence, là, pas la conférence, mais la présentation à l'université, là, c'est
un prétexte
mauvais.
Plutôt mince,
c'est
ouais.
Vraiment mauvais, ça. Là. C'est...
Ben, puis plus loin que ça, là, je le gâcherai pas, puis je révélerai pas le punch, mais la scène de la fin où on voit les joueurs de football, puis qu'il y a les noms,
oui.
Je pense que j'ai failli sacrer mon camp du cinéma. Là.
Mais quand
j'ai...
on voit le stade s'éloigner avec les personnages.
Ouais.
Moi ça.
En fait, ouais, c'est ça. Si j'avais à mettre encore plus flagrant comme critique, c'est les moments ésotériques, bizarres, où est-ce que. Il y a aussi une scène où il y a une femme qui se lève dans le stade, puis là on voit des personnages historiques se lever avec elle dans un objectif vraiment de nous passer la métaphore à Truelle dans le front. Puis, encore une fois, j'étais comme, ouais, plus épais que ça, tu verrais les cracks, là.
Je suis d'accord avec toi.
Moi, je trouvais que ça faisait une belle complétude du film. Je trouvais que c'était comme la boucle qui se bouclait, qu'on se trouvait à faire un peu le... on fait le tour, puis j'aurais pas pu voir une meilleure conclusion pour ce film-là. Une espèce de... C'est comme je le disais tantôt, c'est un film qui est très artistique. C'est un film que le temps est très en spirale, si je peux dire. On repart sur des périodes, on repart, on revient. Il y a une espèce de façon de comme tu disais, Louis, il y a une trame narrative qui est... que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressante. Et je trouvais que la conclusion n'aurait pas pu être différente et n'aurait pas pu mieux supporter cette espèce de boucle de temps qu'on faisait et qu'on refaisait. Voilà.
J'aurais pas pu avoir de conclusion plus intéressante que de passer à Bobine au feu, mais malheureusement, j'ai pas accès à mes souhaits. Fait que... mais est-ce que t'as une note sur 10 pour le film?
Moi, j'y vais avec un 9.
Jim?
Moi, je vais avec un 7.
Moi, je vais avec un 3. Puis, parce qu'il y a des belles scènes dans le film. Mais j'ai vraiment pas été, c'est ça. Fait que, comme j'ai pas accès à brûler les bobines personnellement, je vais juste donner une note que je trouve...
Je doute que ça soit sur bobine...
Approprié. Hey, je laisse mes rêves tranquilles.
Bon, très bien.
Ça coûte cher, après ça, s'il faut que je passe au feu un disque dur contenant le fichier original de ça. C'est plus compliqué, vois-tu?
Bon, enfin.
Fait que ce serait la fin de notre critique voilà. Et commune... Ce serait tout pour cette semaine, mesdames, messieurs. Je vais remercier, comme à l'habitude, mes collaborateurs, Mélina et Jim.
Merci.
Et je vais vous souhaiter une extraordinaire semaine et bon cinéma.
Oui, on se revoit la semaine prochaine avec Monsieur le Lapin.
Oh boy.
Pierre Lapin.
Pierre Lapin, voilà.
On se revoit la semaine prochaine avec un paquet d'affaires aussi que Pierre Lapin.